L'Arrêt aux pages, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
Heures. Un père, un fils, qui ne se parlent, qui s'évitent autant qu'il se fuit, une mère au milieu, qui tient malgré tout, malgré eux. L'histoire se passe à Montpellier, dans le quartier de la Paillade. Le récit d'une relation construite sur les reproches et les non-dits. Le livre en tant qu'objet est un personnage de l'histoire. Il n'y a ni début, ni fin, ni sens. Les mots sonnent et forment une rythmique qui joue le rôle de bande sonore. L'intention est de conter ce qui ne se dit, ce qui se vit dans l'intimité des familles, dans la pudeur des faibles lueurs. Ce récit renseigne sur son monde, sur sa réalité, une sorte de biopsie. Deuxième voix. Dans son odyssée ordinaire, Samia sublime le quotidien, l'observe avec incrédulité ou le guette dans l'ombre de sa propre timidité. Patiemment, mais résolument, elle noue les fils de sa trajectoire indécise entre lignes de fuite et perspectives éblouissantes. Par touches fugitives, comme pour ne pas heurter son héroïne, l'auteur esquisse le portrait d'un personnage fragile, souvent drôle, attachant à force d'être humain, à partir d'anecdotes, de bribes de mémoire, d'instantanées de vie. Il aborde la fragilité de l'âme humaine, les griffures de l'enfance, la difficulté du rapport à l'autre. Ces miettes de vie croquées sur le vif sont autant d'échappées belles, d'images d'un monde aux saveurs douces amères, plus proches à mesure qu'il se dérobe. Je viens de vous lire d'abord la quatrième de couverture de Mektoub, qui est parue en 2022 aux éditions de Mince, puis celle de Le Tour de Toi en écharpe, parue lui en 2008, toujours aux éditions de Mince. Et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui à la terrasse d'un café des Halles de la Paillade pour rencontrer les auteurs de ces deux magnifiques et douloureux portraits. Bonjour Soufiane Heuth.
Bonjour.
Et bonjour Nourdine Barra.
Bonjour Nathalie.
Nourdine, je propose de commencer par vous. Nourdine, vous êtes un auteur montpelliérain, vous grandissez dans le quartier de la Paillade. Vous avez une écriture ciselée, généreuse. On retient votre capacité à nous conter des histoires simples et sensibles, de celles qui nous attrapent et qui ne nous lâchent plus. Vous faites aussi des agoras. Moi, je vous ai connu à travers votre intervention dans une boulangerie du quartier. Vous lisiez des livres, des textes. Voilà, c'est votre trajectoire. C'est aussi d'être dans l'espace public. On va en parler. Voilà, c'est pas occuper l'espace public, c'est occuper l'espace aussi. Et j'aimerais commencer par un mot que vous dites, être de la Paillade, c'est ce que vous dites, hein, Nourdine. Fait de vous un Montpelliérain différent. En quoi être de la Paillade fait de vous un Montpelliérain différent ?
Alors c'est vrai que je crois profondément que les Pailladins ont quelque chose d'à part dans la ville. À la Paillade, on est né ici et puis on quitte moins la ville peut-être que d'autres auxquels les perspectives et les projets peuvent les conduire beaucoup plus loin. Oui, je pense vraiment qu'on vit quelque chose d'à part à la Paillade. Ce quartier a sa cohérence et elle se fonde beaucoup sur une solidarité, un rapport à l'autre, à son voisin, à sa famille, ses amis. Il y a une marque, oui, toute pailladine, je pense, qui nous distingue des autres de la ville. Et d'ailleurs, mes actions se fondent beaucoup sur ce que ce quartier produit comme qualité sans pareil dans la ville. Un sens de l'accueil, un rapport très simple à l'autre. C'est vraiment là-dessus que je fonde une conviction à conduire un maximum d'habitants du centre-ville à venir dans ce quartier, faire la connaissance de ces gens et puiser en eux une force, des valeurs, une conduite des choses les plus simples, son rapport à l'autre, qui ici est quand même conduit, il me semble, de la manière la plus belle. Le facteur humain dans ce quartier, plus qu'ailleurs dans la ville, est vraiment au centre des rapports.
Et c'est d'autant plus vrai que là, on participe en ce moment, toute cette semaine, à une résidence radiophonique. Et que quand j'ai commencé à vous en parler, à parler à Soufiane qui est avec nous, à parler à tous les acteurs que je rencontre depuis le début de ce projet en mars-avril, ça a été l'accueil partout, quoi. Tout de suite, j'ai eu des gens qui m'ont dit oui, bien sûr, tout de suite, il n'y a pas de problème, on échange. Et pas pour montrer forcément, pas avec une démonstration, Nourdine, vous voyez ce que je veux dire ? Pas avec, on va prouver qu'on est quand même un beau... Non, c'est juste... m'accueillir pour m'accueillir.
Oui, oui, tout à fait. Les gens ici ne sont pas dans un exercice permanent de séduction, ni de repentir. Il faut bien le comprendre. Quand on aborde ce quartier, abordons-le de la manière la plus simple, parce que c'est encore là qu'on est, nous, ici, à la Paillade, les plus doués. Je pense à ces maladresses, quelquefois, qui conduisent beaucoup de monde et toujours plus de monde à aborder ces quartiers avec des préconçus, des préjugés, quelquefois même bien intentionnés, mais qui se manquent à imaginer que les habitants ici seraient des cas sociaux, pris à ce point à un carcan que ça figerait un déterminisme. C'est pas vrai, les gens ici sont beaucoup plus libres, font valoir des caractères différents, des humeurs différentes, des espoirs différents. Il faut vraiment venir les aborder le plus simplement possible et vous verrez qu'ils vous ouvriront leurs portes et activeront même en eux quelque chose qui est peut-être culturel aussi ici. C'est ce sens de l'accueil et cet honneur que l'on se fait et un devoir aussi à accueillir l'autre de la meilleure des façons.
Nourdine, on va parler un peu de mots, de livres, de ce livre justement, Le Tour de Toi en écharpe. Vous êtes l'auteur de 3 ouvrages, Nourdine, 2 romans, 1 pamphlet, et vous proposez régulièrement des mises en voix. C'est quelque chose, c'est une question que je poserai après à Soufiane, mais pourquoi avoir eu ce besoin justement de continuer la vie du livre? C'est pas continuer, mais de mettre une voix, de poser une voix. Bon, vous êtes comédien à la base. Peut-être que ça explique des choses, mais j'aimerais que vous nous disiez pourquoi poser une voix sur vos mots.
Alors peut-être parce que j'estime que ce qu'on est capable d'écrire, on devrait être capable de le dire. Et j'avais peut-être besoin de me prouver ça. Voilà. Accréditer que ce que j'écrivais faisait valoir des convictions. Voilà. Et qui pouvait être autre chose que de la poésie. J'avais envie d'en extraire aussi un discours, m'assurer dans la vraie vie que son propos, ses intentions tiennent la route et survivent à l'épreuve du réel. J'avais pas envie de vivre la littérature comme une sorte de rêve en dehors d'une vie la plus active. J'avais vraiment envie de laisser ma vie la plus réelle, s'inspirer de ce que je pouvais écrire de plus poétique, mais aussi laisser mes textes s'inspirer de cette réalité que j'observe. Voilà. Je tiens à progresser dans une espèce de mouvement, d'élan où l'écriture ne distance pas le réel et où le réel ne distance pas. Voilà. Je ne veux pas que ce soit en moi 2 mondes différents.
Nourdine, votre premier texte, donc, c'est Le Tour de Toi en écharpe, qui est préfacé par une très jolie et touchante préface d'Ania Jaoui, qui raconte, quand on vous connaît un peu, c'est vrai que vous êtes un homme du mot, du verbe. Or, elle vous présente comme vous étiez plus jeune, certes, mais presque comme quelqu'un d'extrêmement timide qui vient comme ça avec son texte. Il est très joli, le texte d'Ania Jaoui. Mais je voulais vous parler aussi de votre pamphlet, de ma pierre lancée dans le côté du jardin du théâtre, qui raconte un rendez-vous manqué entre quartier populaire et théâtre. Il y a vraiment un rendez-vous manqué, parce que bon, là, on est juste à côté du théâtre Jean Villard. Il y a quand même une politique volontariste dans les quartiers ou pas du tout, entre monde du théâtre et quartier populaire?
Alors, depuis le pamphlet, j'ai progressé l'analyse que je faisais de la situation et j'exprimais beaucoup dans mon pamphlet à la fois une incompréhension et vis-à-vis d'un théâtre. Je parle évidemment du théâtre le plus institutionnalisé, pas des petits théâtres, pas des intermittents, pas des artistes. Je parle du théâtre dans ce qu'il a de plus institutionnalisé. Et je m'étais beaucoup sur le compte du malentendu, se louper entre les quartiers et les théâtres. Malentendu dont je me disais qu'il pouvait être levé en se parlant, et c'était un petit peu le but de ce livre, c'est qu'il provoque la discussion. Il n'y a pas eu de discussion. Et puis je comprends que ce théâtre, en fait, celui que j'ai essayé d'interpeller, et il ne peut pas être atteint par les mots que j'ai employés, par l'invitation que je lui ai faite, par l'alerte que j'ai conduit au plus près de ces gens-là qui refusent leur scène. Je comprends qu'on a affaire à une autre forme de résistance, à une autre forme de refus, qui est celui-ci plus difficile à interpeller, mais aussi à conduire à la réaction. Je renonce à davantage tenter d'interpeller ce théâtre parce que son refus, il est bourgeois. Il est le fait d'une non-volonté de partager un récit avec les quartiers.
On va parler après, en deuxième partie d'émission, de toute cette démarche que vous avez justement pour le théâtre sans mur et ce besoin de faire tomber les barrières et justement d'occuper l'espace. On va marquer notre première pause musicale avec Cat Stevens, Wild World. Il y a une raison à ce choix ?
Ah, j'aime beaucoup Cat Stevens, c'est magnifique et c'est toujours profond ce qu'il écrit. Et ce qui était rare hein, déjà à son époque, on fait plutôt dans la simplicité dans les chansons anglo-saxonnes d'ordinaire et il est un des rares à amener une très grande profondeur à ses textes, puis sa voix est magnifique.
On écoute Cat Stevens.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go home.
ago. Notre numéro d'aéropage de la Payade continue avec Soufiane. Soufiane que j'ai reçue en mars et puis il n'y a pas très longtemps du tout, il y a 3 semaines, et qui vient aujourd'hui participer à cette émission. C'était indispensable pour moi de vous avoir, Soufiane. Et pour les gens qui ne vous connaissent pas, je vais refaire un peu votre portrait. Soufiane, vous êtes montpelliérain de toujours, franco-algérien. Vous portez en vous votre paillade comme d'autres trimballent leur village. Vous dites même dans un article de Frédéric Maillet, « J'ai habité 3 ans avenue de la Pompignane, je ne me sentais pas chez moi. On a peut-être regardé la même télé, mais on n'a pas la même culture. » Alors je vais vous poser un peu la même question qui est forte chez Nourdine, mais est-ce que c'est vraiment important cette identité pailladine pour vous ?
Alors je répondrai à ça, si vous me permettez, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Nourdine, et après on repartira sur le film. C'est beau ce qu'a dit Nourdine, franchement je souscris un peu à tout ce qu'il a dit. Et sur la dernière question, pourquoi le théâtre, et sans parler que de Jean Vilar, mais moi de ce que j'ai vu, est-ce que je le fréquente ce théâtre, parce que j'ai ce théâtre institutionnel, mais très souvent, trop souvent, il ne s'adresse pas à moi. Et je suis qui, moi ? Je suis quelqu'un qui n'a pas les codes du théâtre. Je n'ai pas une connaissance accrue du théâtre, que ce soit historique, que ce soit actuel, ce qui est contemporain, etc. J'essaie de m'y intéresser, mais je vois bien qu'on ne parle pas. Vous savez, c'est comme si vous voyez 3 personnes en train de parler là, dans un cocktail dînatoire. Vous voyez, le sujet vous intéresse et tout ça, vous voulez rentrer. Vous êtes à côté, donc dans ce petit triangle, et vous essayez de parler, d'en placer une. Personne n'y voit que vous n'avez pas ce niveau-là, etc. Donc, ils vous méprisent dans un silence insolent. Et à un moment donné, moi, j'ai essayé, quand Nourdine parle de proposition, j'ai essayé de venir proposer un regard autre, différent, qui justement, vu que je n'ai pas cette culture, etc., je n'ai pas ces codes, ça permet peut-être d'accrocher d'autres personnes. Ça a été bien reçu, mal reçu, des fois bien, très souvent bien reçu. Ouais, mais y a des théâtres qui font du très très bon travail et Nourdine l'a redit. Donc il ne faut pas tout mettre les œufs dans le même panier. Mais il y a quand même un vrai problème. On n'est pas neutre. Moi j'ai l'habitude de dire ce théâtre Jean Vilar, il est à la paillade. Dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'il est localisé à la paillade et il est dans son appartenance. C'est-à-dire qu'il est au pailladin, il est à la paillade, il est à ce quartier. Et cette deuxième signification, pour moi, elle est inexistante. Et on peut me prouver le contraire. Ce théâtre n'appartient pas aux pailladins. Et ça, c'est un gros problème. Parce que c'est un élitisme de classe. Et on peut me dire ce qu'on veut. On peut faire des pièces sur l'immigration, sur ci, sur ça. Si on ne parle pas aux premiers concernés, on parle à qui ? On est dans le misérabilisme. On est dans cette image caricaturale de « voici qu'est-ce que les pauvres ont vécu ». Mais en fait, je m'en contrefous, moi. Mon histoire, c'est pas ça. Mon histoire, c'est à moi de l'écrire. C'est à nous de l'écrire. Et à un moment donné, il faudra dépasser la simple création partagée, parce que c'est un peu ce qui se fait avec les habitants habituels qui fréquentent 3-4 associations. Il faudrait peut-être essayer de laisser cette porte ouverte. Et qu'on arrête d'exiger des gens comme Nourdine ou comme moi de devoir mettre le pied dans la porte pour que la porte soit entrouverte. Et c'est là où la rencontre ne s'est pas faite. Pour revenir à votre question, excusez-moi, j'ai fait un petit détour.
C'est important.
Alors moi, j'ai aussi une autre phrase. J'habite pas le quartier m'habite. Hein, c'est un peu Booba, hein, c'est pas moi qui quitte le quartier, c'est le quartier qui me quitte. C'est l'inverse, je sais plus ce qu'il a dit. Mais c'est ça en fait. Je n'habite pas le quartier m'habite. Et c'est là où on est différent des autres quartiers, parce que c'est pas un lieu résidentiel. C'est un lieu où on vit. Et c'est la même chose dans les villages, hein. Le parallèle village, on est un village. J'ai très souvent l'habitude de dire la Payade est une ville sans maire. On a 26 000 habitants dans ce quartier, c'est quasiment 7. C'est quasiment la ville de 7. Il est où notre maire ? Voilà. Il est où la personne qui va venir avoir une connaissance accrue de nos conditions de vie, de nos aspirations, sans être dans quelque chose de monolithique, de caricatural, on est où en fait ? Est-ce qu'on est un quartier comme un autre ou pas ? Non, il y a des quartiers qui sont différents. Et ça ne discrimine rien du tout. Chaque quartier a son histoire. Sauf que certains quartiers sont pris en compte dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils nécessitent. Et la Payade, je n'ai pas l'impression, même s'il y a des changements qui s'opèrent, c'est des changements qui sont totalement déliés du fait politique. Et ça, il faut le dire, c'est des changements qui sont sur des dizaines d'années. Et les maires, ici, ont très peu d'impact, ont très peu de vision, et je vais vous le dire, ont très peu d'aspiration à avoir une visée politique ici.
C'est bien, hein, on rentre dans le dans le fort du sujet, c'est superbe. Soufiane, pour parler un tout petit peu plus personnellement de vous, donc vous êtes père de famille, vous êtes éduxpé, vous êtes un acteur social engagé et vous adorez l'histoire antique, la philosophie. Alors bon, je vous ai déjà posé la question, mais le rapport entre rap et philo, ça peut ne pas être évident. Et pourtant, c'est ce que vous aimez.
Je pense, hein, ça c'est mon conviction profonde, le rap et le rock actuel. Quoi, le rap et le rock d'avant, le rap actuel est devenu le rap. Donc vous avez tout, hein, vous avez la variété, vous avez du Elvis Presley, mais vous avez aussi du Johnny Cash, magnifique. Dans le rap, on a ces équivalents-là. Le rap est une vraie culture, c'est pas une contre-culture et c'est encore moins une sous-culture. Ça peut être une contre-culture, mais le rap ne se définit pas que par cette contre-culture. Le rap, c'est une façon de vivre. La dernière fois, j'avais dit que c'est une façon d'être, mais KRS-One, dans mon repos à la citation, a dit que c'est une façon de vivre. Et c'est encore plus juste. Et donc, quand on dit c'est une façon de vivre, qu'est-ce qui dicte toute façon de vivre? C'est la philosophie. Le rap est une philosophie. C'est une philosophie parce que c'est un regard sur le monde. Aussi simple que ça. Alors, bien sûr, vous aurez le rap purement commercial pour faire danser, hein, comme vous avez la Macarena et vous avez Johnny Hallyday. D'accord? Mais il n'y a pas que ça dans le rap. D'accord? Et dans tout rap, vous avez pouvoir trouver un fond philosophique, un fond politique, pas que dans la revendication type rap conscient, non. Même dans le rap de Jules, vous avez une revendication politique qui n'est pas on est discriminé, etc. Et il y a une vraie philosophie parce que ça va vous engager à intégrer une culture qui a un regard sur le monde qui est particulier parce que le rap se fait d'une place particulière. Même si de plus en plus, et c'est vrai, vu que le côté commercial, on a de plus en plus d'enfants de très très riches qui font du rap. Est-ce que ça dénature pas? Est-ce qu'il faut avoir vécu dans certains quartiers une certaine histoire de vie pour faire du rap? Je le pense. Je pense que comme le reggae, comme ci, comme ça, on peut s'en inspirer, mais il ne faut pas que la source du reggae se base dans le 16e à Paris. Je pense qu'à terme, ça sera un gros problème si c'était le cas. Et bien, c'est la même chose avec le rap.
C'est vrai que c'est intéressant ce rapport parce que vous parliez du rock, mais c'est vrai que le blues, c'est quand même aussi au début un champ de revendication, que le rock, évidemment, c'est un champ de revendication. Est-ce qu'il y a cette dimension de revendication dans le rap?
Ah oui, non mais de toute façon, toutes les musiques qui ont percé sont des musiques populaires, récemment, hein, c'est-à-dire des années 50, voire même avant. Et qui dit musique populaire dit deux choses. Il faut que ce soit divertissant. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas parler que de nos problèmes tout le temps. Donc c'est pour ça que ce sont des choses qui sont très dansantes avec du rythme, etc. Le but, il est de faire danser et kiffer les gens. Mais à un moment donné aussi, de dénoncer et de parler d'un quotidien qui n'est pas facile à vivre. Sans être dans le misérabilisme, je le redis encore une fois. Et c'est pour ça que pour moi, la littérature et le cinéma ont totalement loupé leur rencontre et leur tentative d'appropriation des quartiers populaires. Parce qu'on a eu la haine, 95, la haine de mémoire. On est en 2024, on n'a pas avancé d'un iota, on a même reculé. Donc voilà, on est dans un chewing-gum mâché qui a été jeté par terre, qui a été repris dans la bouche, c'est totalement dégueulasse, c'est totalement insipide, mais on est en train de mâcher ce même chewing-gum. Voilà pourquoi la culture, une certaine culture a totalement loupé ce que le rap n'a pas fait, ce que le rap n'a sans cesser d'évoluer.
Soufiane, avant de vous laisser échanger, parce que j'aimerais bien vous entendre tous les deux, moi je vais prendre un peu de recul, il y a une dernière question que je voulais vous poser. Vous vous élevez contre toute fatalité et vous dites la méritocratie n'existe pas dans les quartiers. On nous renvoie toujours à nos origines. Les enfants d'immigrés ont remplacé les fils de prolos dans beaucoup de métiers manuels. C'est un constat cruel, mais c'est un constat, c'est-à-dire que c'est même pas une opinion pour vous, c'est comme ça.
Ah non, mais c'est un constat que je vais réaffirmer en citant Gérald Moussa Dermana, qui l'a dit. C'est magnifique, il dit tout et son contraire dans une même phrase, mais il a dit, si je m'avais été appelé Moussa, j'aurais pas eu la vie que j'ai eue et j'aurais pas eu la carrière que j'ai eue, donc point en fait. Une personne qui a eu une politique très... Oui, bon après ça n'a pas empêché de soutenir et de continuer à soutenir une politique qui est totalement discriminante et qui a quand même des relents racistes, mais aujourd'hui, par exemple, la politique autour de l'immigration nous dit quoi ? Nous dit on va récompenser les personnes qui sont méritants, les étrangers méritants. Non, mais en fait, une personne qui est vivante, elle est déjà méritante. Pourquoi, en fait, une personne qui serait un bon citoyen pourrait se voir octroyer donc un nouveau statut ou voir enlever un nouveau statut qui a des chances de nationalité, mais un Français, j'allais dire pure souche, on ne vient pas le réinterroger sur sa citoyenneté. Donc en fait, on est des citoyens sous-conditionnels. On a un président, on a un ancien président avec un bracelet. On ne le renvoie pas à sa délinquance. À sa délinquance où il a été condamné à multiples reprises et en appel. Et d'autres personnes qui n'ont rien fait, mais parce qu'ils ont une couleur de peau. Et là, je vais faire un très vite raccourci sur la gestion coloniale. Parce que la gestion des étrangers aujourd'hui, c'est la gestion coloniale d'avant. Hein. Avant, vous saviez, je ne sais pas, je l'apprends peut-être, que les indigènes qui étaient considérés comme musulmans, ça n'a rien à voir avec leur religion. Il y avait des Algériens qui étaient chrétiens ou qui s'étaient convertis en disant « Oh, si je deviens chrétien, peut-être que je vais avoir une ascension sociale. » Ils étaient considérés comme citoyens musulmans. Musulmans, c'est un statut. Et donc, ils n'avaient pas accès à certaines choses. Tout simplement parce que la citoyenneté, malgré que ce soit un département, hein, les numéros du département de l'Algérie française, c'est les numéros de la région parisienne, hein, les nombres, hein, 95, etc. Donc on est quand même avec des citoyens qui étaient des citoyens de seconde zone à qui on a dénié le code de l'indigénat, hein, quand même, code de l'indigénat, de mémoire, c'est même année que la deuxième abolition de l'esclavage, parce qu'on s'est dit, mince, les citoyens vont pouvoir voter. Et on le disait, et à l'époque on le disait, exactement ce qu'on dit aujourd'hui, c'est si ces citoyens musulmans, si ces musulmans deviennent citoyens, on va se faire grand remplacer. Alors le terme n'existait pas, mais excusez-moi, il y a un parallèle constant. Et c'est ce qui est dit aujourd'hui quand même de ces musulmans qui ne peuvent pas s'intégrer à la République, qui ne seraient pas des bons citoyens, qui seraient que des bons citoyens le jour où ils seraient moins musulmans. Mais à un moment donné, il faut vraiment qu'on arrête ça. Et c'est un constat concret, réel, que les représentants, quoi, les habitants des quartiers populaires qui sont les descendants des anciennes colonies, à la Paya, c'est plutôt des colonies du Maghreb, protectorat et colonies, sont discriminés. On est dans un constat. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est encore à « touche pas à mon pote » Est-ce qu'on est encore à « halte au racisme » Non, mais stop, parce que le racisme primaire, il n'y a pas de problème, on sait lutter contre. C'est le racisme institutionnel et systémique qui a beaucoup on a beaucoup plus de difficultés à lutter contre ce système de discriminatoire.
Excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre, mais c'est vrai que c'est important parce que ce serait trop long aujourd'hui, puis ce n'est pas le sujet, mais c'est quand même aussi cette discrimination qui a engendré les événements de Sétif et le début de la guerre d'Algérie. Aussi, moi, on a eu reconnaissance, on pourrait revenir en arrière, mais c'est ça, c'est aussi ça, c'est ce manque de reconnaissance des musulmans.
Mais vous savez, très peu de gens le savent, mais dans l'Algérie française, qui était un département français, la loi de 1905 n'était pas appliquée. Parce qu'on avait peur que les communautés religieuses soient le lieu d'organisation d'une sédition, d'une revendication indépendantiste, etc. Et les Algériens français, les Français, quoi, les indigènes algériens, n'ont eu de cesse de demander la stricte application de la laïcité. Ce n'était pas le cas, les imams n'étaient pas libres, le préfet a énormément de pouvoir sur la religion musulmane, etc. Et c'est parce que la France n'a pas voulu accepter tous ses enfants, parce que la France n'a pas voulu traiter avec égalité et équité les Algériens, qu'à un moment donné, oui, effectivement, ils ont pris les armes. Oui, effectivement, il y a eu une demande d'autonomie, mais il se passe la même chose avec les Corses. À un moment donné aussi, il faut qu'on ouvre les yeux. Je ne vais pas parler de la Kanaky parce que ça va durer très longtemps, la Kanaky aujourd'hui, mais sociologiquement, c'est une colonie. Voilà. Et comment on fait pour que nos quartiers ne deviennent pas des colonies? C'est-à-dire se traiter avec le fait colonial. Et je finirai là-dessus, mais intéressez-vous à qui a créé la BAC, la Brigade Anticriminalité. Pourquoi on l'a créée? C'est purement une invention coloniale qui a été créée à destination de la gestion des corps des Maghrébins dans les quartiers. Des corps, je dis bien des corps. Il fallait mater les corps, encore et encore.
Sur ces mots très forts, on va revenir au verbe, au mot, au livre, puisqu'on est dans une émission littéraire. Donc je rappelle qu'on reçoit aujourd'hui Nourdine Barra pour Le Tour de Toi en écharpe, qui est déjà un roman un peu ancien. Est-ce que vous écrivez d'ailleurs, Nourdine, en ce moment? Est-ce que vous vous remettrez un jour au roman?
Est-ce que
vous vous remettrez un jour à écrire du roman?
Ça fait maintenant longtemps que je n'ai pas écrit. Mais je continue de prendre des petites notes et peut-être que ça fera l'objet d'un roman, qui sait. Je commence à avoir à nouveau envie d'écrire finalement j'ai peu écrit, hein, 3 livres en 15 ans, c'est très peu, des petits ouvrages qui dépassent pas les 80 pages. Ouais, le roman me tente beaucoup, ouais.
Et nous, Soufiane, on en parlera en fin d'émission parce que vous êtes en plein dedans, vous, par contre. Et là, on parlait aujourd'hui de Mektoub, qui est un livre à double lecture. Hein, voilà. J'aimerais que maintenant que vous échangiez, ça serait trop simple de dire que ce qui vous lit, c'est la paillade. Ça serait beaucoup trop simple, je trouve, de dire, voilà, ce qui les lit tous les deux, c'est d'être pailladin. Non. ça les lit pas. Ce qui vous lit, c'est quoi? C'est l'amour des mots, c'est quoi? Nourdine, je vous laisse le micro et après, moi je vais me reculer un peu pour vous laisser avec Soufiane.
Alors moi j'ai fait la rencontre de Soufiane il y a quelques années. Je disais tout à l'heure que ce quartier produisait des êtres très différents, des personnalités, des caractères, des singularités. Et c'est ce qui fait tout le bonheur de vivre ici. J'aime faire mentir l'idée que ce quartier produirait des êtres plutôt semblables aux mêmes revendications, qui enquêteraient à partir d'un préjudice dans les mêmes directions. Soufiane a un discours plus politique. Je pense qu'on est aussi, on se dirige vers des directions en fonction des forces que l'on est prêt à mettre sur la table. Bon, moi je crois que je suis un grand sensible et j'ai beaucoup de mal à m'attarder très longtemps sur des constats d'échec ou sur des incohérences que peuvent produire une société, sur le cas des politiques qui m'intéressent finalement pas beaucoup. J'ai été beaucoup plus happé par l'autre, mon semblable. C'est l'enquête que je mène, mais c'est marrant, ça fait des routes qui se croisent souvent.
Je crois aux différentes intelligences, hein, l'intelligence affective, l'intelligence artistique est une intelligence beaucoup plus, pour moi, importante et valorisée dans mon esprit que la pure intelligence logico-mathématique froide et celle qui est valorisée de génie. Tu sais, les gens qu'on dit sont des génies parce qu'ils ont tout analysé. Non. Non, moi, je pense qu'il faut la Payade, c'est une petite ville. Donc, on va avoir des gens qui sont pour la méritocratie. On va avoir des gros racistes. On va avoir des personnes qui sont dans des postures totalement intégrationnistes, assimilationnistes, là, pour rester sur les sujets qui nous intéressent. Par contre, ce que n'est pas la Payade, c'est une zone de non-droit. Ce que n'est pas la Payade, c'est... Si c'est une zone de non-droit, c'est une zone où le droit institutionnel, le droit républicain, ne s'applique pas par abandon. Par abandon. C'est pas les dealers, c'est pas... Oui, il y a des règlements de compte, oui, tout ça, ça existe. Mais qui créer ça, qui a les moyens de changer ça et qui a la responsabilité de changer ça? C'est pas les habitants. Les habitants, ils le font, ils appellent les, voilà, etc. Le commissariat qu'ils doivent appeler le commissariat. Et moi, c'est ce que j'ai souvent entendu. Je vais vous raconter une anecdote qui va être très très courte. J'avais joué une partie de mon texte, le premier texte, mes points sur les i qui se passent dans un quartier, etc. C'était au Festival d'Avignon, mais en off pour présenter aux professionnels. Donc c'était plusieurs petits extraits. Et à la fin, il y a une dame très influente de ce monde-là qui vient et qui me dit « Ah, votre texte est génial, mais je vais vous expliquer comment ça se passe dans les quartiers. En fait, vous ne savez pas. » J'ai dit « Ah bon ?» Elle me dit « Oui, les parents, si on enlève le trafic de drogue, les parents, ils meurent de faim. » Donc les parents, en fait, ils ferment les yeux, ils sont bien contents quand leurs enfants leur filent un petit billet pour faire les courses. Et les filles et les femmes, etc. Bon, tout le laïus, etc. Je dis, bon, ça doit exister, moi j'en connais pas, mais je fais l'opération intellectuelle que ça existe. Par contre, je connais énormément de parents qui, effectivement, leur fils deal. Mais je peux vous dire qu'ils n'acceptent pas un centime de leur enfant qui sont... où les liens sont coupés, où l'enfant a honte, il frôle les murs, etc. Et j'en parle dans Mektoub de ce genre d'enfant. Mais les parents, jamais ils n'ont ramené la police, ils n'ont jamais une contravention. Ces parents-là, ils n'accepteraient pas un argent d'argent sale. Et ça, j'en connais. Donc, en pourcentage, en vraiment une opération purement intellectuelle, ces parents-là qui vivent et qui sont bien contents de vivre de l'argent de la drogue, ils sont où? Ils sont rares. Il n'y a pas de problème. C'est tout comme dans tous les domaines, hein, les brebis galeuses, on va dire. Mais les parents honnêtes, ils sont beaucoup plus nombreux. Et moi, je parle de ce que je vois, de ce que je vis. Et cette dame-là n'a jamais vécu dans un quartier, n'a jamais vu. Et elle était en train de parler des quartiers à quelqu'un qui a écrit sur les quartiers et qui vit encore dans les quartiers. Ben, à un moment donné, je lui ai dit mes quatre vérités. Donc, ça m'a fermé des portes à Avignon. Et il n'y a pas de souci, je m'en fous complètement. Mais... je lui dis bah déjà qu'elle n'a pas à venir me parler et qu'elle n'est personne pour venir me parler en fait. Et c'est pas parce qu'elle a une position de pouvoir que son pouvoir elle va venir me l'imposer. Et c'est là où je vous parle des premiers concernés. C'est où là où la relation et la rencontre a été manquée. C'est quand Nourdine et moi, on va aller parler avec un X directeur de théâtre, qu'on va lui dire, écoute, là on trouve que ce directeur nous fait une proposition. On dit, mais cette proposition, pour nous, elle nous plaît pas parce qu'elle nous respecte pas dans ce qu'on est. On n'est pas des faire-valoir et on aimerait venir proposer une vision qui nous est propre. Voici notre vision. Ah ouais, mais non. Nous, on nous a quand même dit, et Nourdine, je te prends à témoin, excuse-moi, il n'y a pas de talent à la paillade. En face de nous, hein. Je cherchais pendant des années, je n'en ai pas trouvé. Voilà, tout est dit. Et à un moment donné, la problématique, il y a un livre, j'ai plus l'auteur, d'une autrice anglaise qui disait « Le racisme est un problème de blanc ». Eh bien, je vais vous dire, l'exclusion des quartiers populaires au théâtre est un problème de blanc.
Avant de marquer notre deuxième pause musicale, j'aimerais revenir sur vous et les mots. Parce que vous êtes comédien, Nourdine, entre autres. Et moi, j'ai été frappée quand je vous ai écouté, Soufiane, du rapport que vous aviez avec le mot. Parce que quand Soufiane dit un texte, même un texte qui n'est pas du rap, vous le scandez, vous avez une façon de dire les mots extrêmement personnelle que vous n'avez pas du tout, Nourdine. Hein, vous êtes beaucoup plus proche du théâtre. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Vous connaissez, vous êtes déjà entendu mutuellement sur les mots. Je sais pas qui veut prendre en premier le micro.
Moi, je vais être très très court. L'être humain a parlé avant d'écrire. Simple, basique. À l'époque antique, Homère, tous les scalds, si on prend la période, la région nordique, ils étaient obligés de scander pour apprendre par cœur. On ne parle pas de façon plate, ça n'existe pas. Sinon, en fait, on discute. Non, quand je lis un texte, je l'enrobe de quelque chose. Vous voyez, c'est cette petite ganache au chocolat qui va faire que ça va passer crème dans votre bouche, dans vos oreilles. Un texte, ça se respecte. Il faut l'enrober. Sinon, c'est de la discussion, qui est très belle. Mais c'est une discussion. Moi, un texte, c'est une déclaration. Une déclaration d'amour à mon quartier, très souvent.
Alors, si on me lit et m'écoute, et si on écoute Soufiane, et si on le lit aussi, on comprend que l'écriture est aussi le fruit, la conséquence d'une culture toute personnelle. Tu nous demandais ce qu'on avait de commun, de différent. J'imagine qu'on doit plus sentir chez Soufiane une culture artistique, poétique, celle du rap, dont il revendique même la filiation. Je crois que je suis arrivé, moi, à l'écriture de manière plus intuitive. Pas dans le sens que quelque chose de magique m'aurait porté jusqu'à l'écriture, mais sans véritable culture, justement. Sans idée très arrêtée sur le monde. Et nos écritures, je crois, ont ça de différent. Et puis, peut-être une fluidité. J'ai la sensation que toi, tu travailles beaucoup plus un rythme qui est très musical. Et qui sont aussi des coups portés. Je parlais tout à l'heure de cette importance de ressembler à ce qu'on écrit. Ben pour le coup, Soufiane, il ressemble à ce qu'il écrit jusque dans le rythme. L'écriture chez Soufiane entérine, et là aussi pour entériner comme moi, sur d'autres considérations portées à la vie, mais c'est aussi là pour poser un acte.
C'est une belle rencontre. Alors, excuse-moi, Soufiane, mais il reste 2 minutes et je voudrais quand même qu'on parle en 2 mots. On fera d'autres entretiens, je crois. De votre actualité. Parce que si tu peux, en 1 minute, nous parler de Rap au Vif qui sort. Et puis, je laisserai Nourdine finir en nous donnant rendez-vous donc vendredi, puisque l'émission passe demain, mercredi 9. Et que le 11, on propose une déambulation, un événement dans la paillade. Donc, je te laisse parler de Rap au Vif. Et c'est Nourdine, je te laisserai conclure, Nourdine, avec notre déambulation de vendredi matin.
Alors, très rapidement, donc, je vais reprendre la phrase que je voulais. Écrire, c'est une conséquence. Donc, Rap au Vif, c'est une conséquence. C'est un tueur en série qui assassine des femmes portant le voile. Un flic atypique qui mène l'enquête en faisant équipe avec un bleu, c'est-à-dire un jeune flic. Voilà, il y a un chassé-croisé qui s'opère et on va venir explorer en fait ce qui fait société, ce qui nous déchire. Voilà, on va parler d'islamophobie, on va parler d'ultra-droite, etc. Ce polar sera un roman augmenté, c'est-à-dire que vous aurez un QR code où il y aura 2 choses. Déjà, une playlist rap, parce que le rap a son importance, qui est là pour donner une ambiance sonore, délivrer des indices, voire même vous permettre de rapper sur le beat le passage où il y aura le morceau en question. Et aussi, donc via ce QR code, vous aurez accès à 5 courts-métrages qui vont venir illustrer les réactions médiatiques en cours dans le roman. Donc là, on va briser un peu le mur entre fiction et réalité. Ce roman est déjà disponible à la précommande. Vous pouvez l'avoir en e-book ou en format papier. Je fais aussi un crowdfunding pour financer, donc là on a réussi à récolter un peu d'argent pour financer les 4 premiers courts-métrages. Le 5e qui va être le plus gros, c'est un talk show avec une dizaine de participants. J'ai besoin du soutien financier, donc vous pouvez acheter soit un t-shirt, soit le roman dédicacé, un mug, etc. via le crowdfunding. Donc vous allez sur Kiss Kiss Bang Bang, Rap au Vif, RAP, un peu plus loin AU, un peu plus loin VIF, Soufiane Hutt. Vous trouvez tout ça sur les réseaux, mes réseaux sociaux. Vous mettez le lien, c'est parfait. Et pour moi, voilà, écrire est une conséquence.
Ah oui, donc je pars sur une nouvelle impulsion. Fini le théâtre sans mur. Aujourd'hui, la dénomination de l'action que je porte s'appelle Paillade Campus. Et elle envisage de faire de la paillade une université à ciel ouvert. J'aborde des instituts de recherche, l'INSERM, le CNRS, Supagro, le CIRAD, en plus des lycées et des grandes écoles de la ville vers lesquelles je vais et vers lesquelles... je trouve à chaque fois, à l'intérieur desquels je trouve à chaque fois quelqu'un pour répondre oui à la proposition de venir faire sur l'espace public du partage d'un savoir avec les habitants. Et ceci à l'attention évidemment des habitants du quartier, mais évidemment de toute la ville. Je veux que ce quartier, j'adorerais que ce quartier ait cette fonction sociale, une autre fonction sociale que d'être un boulet dans la société. Enfin, c'est la manière dont on le perçoit. J'aimerais travailler à cette nouvelle caractéristique claire qui est le quartier qui accueille un savoir enfermé dans les universités, dans les écoles, pour en proposer le jaillissement sur l'espace public au profit de toute la ville.
Super, on se donne rendez-vous vendredi. L'aventure continue. On va partir là pour Kaina et puis plein d'autres endroits cet après-midi au Café Margel. Demain, chez Unisson, on sera aussi avec Sésame donc, qui s'occupe de l'accueil des migrants, l'accueil médical des migrants. Voilà. Et puis jeudi, Annick nous retrouve au Théâtre Jean Villard et notre déambulation vendredi matin. Merci beaucoup à tous les deux. Vous savez que vous êtes les bienvenus sur l'antenne de Radio FM+. Je pense qu'on aura... plein d'autres moments ensemble. À bientôt.
My driver when I'm slumped, be my nigga if you clutch. I ain't saying fight my battles, you ain't gotta be my crutch. Tell my mama that I love her, I don't do that shit enough. I'm with bro, bro, wait, I'm with bro, bro in the cut. I love the hood, you know I'm stuck. Wait, I worry about this shit tomorrow. Why the fuck you acting sus? Wait, call me lacking in the party. Swear to God, I can't sit up straight. Wait. There's something about the hood, I love it. I ain't going, no, I'm stuck. Wait. Oh, man. Yeah. Pick me up when I get stranded and I'm trying to find a way. Super chips up in a sandwich, cause it's shit you can't escape. Know my heart can turn to rock, so I don't take that shit for granted. Shout out Breeby from the that little bitch that did me scandalous. You know I done been through hell, huh? I'm going through it, I can't hide it, you can tell, huh? Come hold me down, cause I keep running from myself, huh? Let you hold my burdens, it'll probably tip the scale. Let these niggas to the well, that just opened up my floodgates. I come from the mud, weed to hit me for the updates. I say free my nigga, if you know my insecurity, just keep it on the hush. If you hit me up at 2 a.m., you gotta let me fuck. Be the driver when I'm slumped, be my nigga if you clutch. I ain't saying fight my battles, you ain't gotta be my crutch. Tell my mama that I love her, I don't do that shit enough. I'm with bro, but wait, I'm with bro, bro in the cut. I love the hood, you know I'm stuck. Wait. I worry about this shit tomorrow. Why the fuck you acting sus? Wait. Call me lacking in the party. Swear to God, I can't sit up straight. Wait. It's something about the hood. I love it. I ain't going, no, I'm stuck. Wait. Oh, man. Shit. Sheesh. She gon' play me, got this feeling in my gut. Damn, I'm paranoid as fuck. I've been chillin' in the hood while the coppers pull me up. Damn, they always on my nuts. Damn, the hood ain't got me stuck. That little bitch had did me, She gon' wait till I get brackin' just